Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lenz Ronalevracha. La question de Arié.
Est-ce que ne pas faire une Avera, c'est une mitzvah?
Est-ce qu'il y a une mitzvah? Donc, est-ce qu'il y a un mérite? Une mitzvah, un mérite à ne pas faire un péché? Oui, on a dans Rashi, dans Kiddushin, page 39b, dit que quelqu'un, il a une tentation sexuelle, Dieu nous en préserve. Il se retient. Il dit, il n'y a pas de mitzvah plus grande que cela. Ça veut dire que faire une mitzvah, c'est bien, tu as un mérite. Mais ne pas faire, rester neutre, on pourrait croire que, bon alors, on va dire comme ça, il y a le zéro, je fais une mitzvah, je mets des points en plus, je fais une avéra, je mets des points en moins. D'accord? On se dit non, le fait quand tu as une tentation, et précisément les tentations sexuelles qui sont les plus dures qu'on a aujourd'hui, on peut dire, et Rachid en parle déjà il y a 900 ans, en France, juste en parenthèse, Rachid, à la fin de traité Gittin, on parle là-bas de si on a une femme, Chassé Shalom, qui n'est pas pudique. Alors on parle maintenant, il faut la divorcer, pas la divorcer, etc. Alors il dit, comme les femmes qu'il y a en France, à l'époque, hein, qui vont avec une ouverture ici sous les bras. Ça, c'est le nom pudique du temps de Rashi. D'accord ? C'est lever le bras, on voyait ses aisselles. C'est le nom pudique des femmes à l'époque en France. Déjà, c'était mal barré. Depuis, ça a progressé, hein ? Je ferme la parenthèse. Donc, si je suis à zéro maintenant, je pourrais dire, ok, j'ai pas fait de péché, donc j'ai pas fait des mauvais points, mais je reste à zéro. Ben non, mon cher ami. Le fait que tu te retiennes maintenant, et il y a une bataille intérieure, et tu vainques cette bataille, ça donne des points en plus, plus grands que tous les points en plus que tu pourrais avoir. Donc, comprendre que la bataille est dure, comme je racontais déjà souvent ici, dans le désert, le Yetzer Hara, le mal, veut empêcher Bnei Israël d'arriver en terre d'Israël. Parce que s'il arrive en terre d'Israël, Moshe rentre en terre d'Israël, le temple est reconstruit, ce sera un temple éternel, et c'est la fin des temps, c'est l'époque messianique. Donc il fait faire au Bnei Israël plusieurs péchés. Déjà, dès qu'ils sortent d'Égypte, il y a un endroit où il y a de l'eau, mais l'eau est amère, ils se plaignent. Moshe adoucit l'eau. Après, on regrette la viande qu'on avait en Égypte. Après, le veau d'or. Après, Korach. Après, la manne, on se plaint que c'est toujours la même nourriture. Et Shabbat, on sort en prendre alors qu'il ne fallait pas en prendre. Etc. Durant 40 ans, ils se sont mal comportés. Chaque fois, le Yetzer Hara vient, amène des épreuves pour faire tomber Bnei Israël. À la fin, on arrive déjà, on est en bordure de la terre d'Israël, dans la région de Moab. Moab, quand on descend vers la mer Morte, on arrive dans une plaine. En face, c'est la Jordanie. Il y a une plaine. La plaine qu'on voit en face, c'est là-bas que Bnei Israël ont campé, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu a écrit le livre de Devarim. On aura qu'on peut voir de nos yeux, d'accord? Là-bas, Bnei Israël était, c'est 12 km depuis la rive nord de la mer Morte, jusqu'à en face de Jéricho, derrière le Jourdain, donc en Jordanie actuelle. Ça s'appelle les plaines de Moab. Là-bas, Bnei Israël ont campé, et là-bas, Moshe Rabbeinu a écrit le dernier livre de la Torah, le livre de Devarim. C'est là-bas qu'après il est monté à la montagne et c'est là-bas qu'il est monté au ciel. D'accord ? Enterré et monté au ciel. Donc, Bnei Israël campe là-bas, donc sont à deux doigts de rentrer en terre d'Israël. Le roi du pays de Midian, Balak, amène le prophète Bilham pour maudire Am Israël. Et Bilham, au lieu de maudire, bénit. Le miracle connu que Dieu a fait, qu'à la place des bénédictions, il y a eu des bénédictions. Étant donné que Bilham a un pouvoir terrible dans sa bouche, Balak le roi dit, je suis fichu, non seulement t'as pas maudit, t'as béni, alors moi j'ai plus aucune chance contre eux. Bilham, il a la haine des juifs, il dit, écoute, je vais donner le système D. Elohim shel elu sonezima, le dieu de ces gens-là, il a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Balak écoute le conseil de Bilham, il envoie une armée de jeunes filles en tenue légère, avec des tambourins, de la musique, des violons, des flûtes. Les soldats voient ça, waouh, et tombent dans le panneau. Bnei Israël tombe dans le panneau. Et Dieu décide, c'est trop, ce coup-là, j'anéantis le peuple d'Israël. se lève Pinchas ben Eleazar à Cohen, fait un acte de bravoure qui fait calmer la colère divine. Et Dieu dira, au début de Parashat Pinchas, si ce n'était l'acte de bravoure de Pinchas, kvar kiliti et ben Israël bachamati, j'aurais déjà anéanti Am Israël dans ma colère. Ça veut dire que le mal va utiliser le système D. Quand il y a c'est la dernière chance, le dernier truc, c'est le système D. Quand on a tout utilisé, toutes les armes, ça n'a pas réussi, c'est aujourd'hui. Machiach, il est à la porte. À la porte. Alors Kamievski, il a envoyé dire au Rav Steinman qu'il était dans la porte déjà. Il n'est pas à la porte, il est dedans. Dans la mezouza, entre les deux portes, entre les deux poteaux. Le mal sait que quand Machiach il arrive, il est fichu. Le rôle du Machiach, c'est éradiquer le mal, égorger l'ange du mal. D'accord ? Il va se laisser faire. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie les filles. Internet, les smartphones, les iPhones, les machins, tout ça, Hachem Ishmor. Hachem, les pubs. Tout. La musique. De quoi on parle dans la musique goy ? Des lapins dans la montagne ? Hein ? Des tortues dans la mer ? Des sapins ? Des rivières. Pardon ? Des souris vertes, peut-être des souris et des souris, peut-être les deux, d'accord ? Souris, moi je te souriais, d'accord, voilà, c'est ça, on parle que dans toutes les langues, que l'amour, et encore je suis dans les l'amour, des fois c'est pire, d'accord ? Carrément sale.
Ça, vous renvoie les paroles, c'est une chose ?
C'est vecteur d'une charge spirituelle négative, même si on ne comprend pas. C'est quelque chose d'affreux.
C'est pas bien, les choses nous influencent en mal.
Ça influence en mal. Ça a un impact négatif. Je ne sais pas si on peut interdire totalement. En tout cas, ça a un impact négatif, donc c'est très déconseillé.
Pourquoi
c'est une femme, c'est encore pire.
Hein? Pourquoi la musique, ça fait tant de bien?
La musique, c'est extraordinaire. C'est, bon, on est en train de dévier de mon sujet, mais juste, je te fais une petite parenthèse que tu comprennes. La musique.
Les instruments de musique, par exemple, la musique de pianoforte.
Le Gaon de Vilna, il a dit, s'il n'y avait pas eu la Torah, j'aurais tué la musique. C'est la chose qu'il y a dans le monde la plus spirituelle après la Torah. C'est quelque chose d'énormément énorme, très très grand. Maintenant, je vais t'expliquer. Maintenant, tout ce que Dieu a créé dans le monde, c'est pour se brancher avec lui. Parce qu'il est la source de tout bonheur. Dieu est la source de tout bien. Ceux qui arrivent chez la Yeshiva, se brancher avec Hachem dans la prière, l'étude de Torah, il goûte un plaisir qui n'a rien au monde qui équivaut. C'est extraordinaire. Des millions de dollars, on paierait et je ne suis pas prêt à lâcher le fait d'être branché avec Hachem. C'est la source de tout bonheur. Et nous, on est branché à un branchement super faible, d'accord ? C'est un branchement ADSL de nul. Ceux qui sont branchés grands, et quand ma chère viendra, c'est un super grand branchement, c'est la béatitude, le bonheur le plus grand qu'il puisse avoir. Maintenant, on va être en relation avec Hachem. Alors, il y a la prière, il y a les mitzvot, l'étude de Torah. Mais il est clair que dans les prières, il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus haut qu'il y a s'appelle Shir. Shir, c'est un chant. Ça veut dire que tu vas prier Hachem, mais en utilisant comme vecteur la musique, comme véhicule la musique. Nous voyons que dans le temple, les Lévi'im faisaient des chants. Quand il y avait un sacrifice, il y avait tout un orchestre de Lévi'im, un orchestre, un choral, etc., qui faisait des chants. Et c'est ça la vraie finalité de la musique. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a créé la musique dans le monde ? Parce que c'est un véhicule qui permet de se mettre en relation avec Hachem de façon beaucoup plus grande. C'est marqué dans le Tanakh, dans la Bible, que les prophètes. C'est quoi un prophète ? C'est pas quelqu'un qui te raconte le futur. Ça aussi, il peut le faire. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Dieu lui parle. Il est en relation tellement grande qu'il voit des messages divins. Maintenant, les prophètes allaient dans des écoles de prophètes. Ils apprenaient là-bas les techniques. Et la technique nécessitait d'avoir de la musique. On prenait un musicien, il commençait à jouer comme ça. Je sais pas moi, Pink Floyd. Non, je raconte des histoires. Il jouait de la musique d'antan, Faraday Latra, je sais pas, des trucs bons, ou de l'oriental, ou du heavy. Non, je pense pas qu'il y avait du heavy metal rock. Quelqu'un m'a dit hier du grass rap. Toi qui m'as raconté ça ? Death metal, d'accord. Je sais pas, c'est un truc encore pire que ça. D'accord ?
Très violent.
Avait de la belle musique à l'époque. et ça mettait les prophètes en situation de prophétie. Donc c'est un véhicule qui se permet de se brancher à Dieu. C'est ça le vrai but de la musique. C'est extrêmement divin la musique. Et étant donné que c'est tellement divin, maintenant que le temple est détruit et qu'il n'y a plus de prophétie dans le monde, le véhicule reste, mais il est récupéré pour des fins beaucoup plus banales. Mais étant donné que c'est un véhicule divin, donc il est super puissant, c'est comme si maintenant j'ai une fusée qui peut monter sur la Lune, fantastique, et moi je l'utilise maintenant pour quoi? Pour l'énergie de la fusée, j'utilise maintenant pour mon fer à repasser. C'est bien, le carburant rentre dedans, psh, comme ça c'est chaud, ça repasse très bien mes chemises. Ok, mais c'est pas le but, mais ça marche très bien. Oui, parce que c'est divin. Tu prends une puissance atomique divine, d'accord, tu l'utilises maintenant, c'est divin. Mais ça veut dire, c'est l'utilisation, il y a ici une falsification, c'est un peu galvaudé, c'est pas le vrai but. Maintenant, le vrai but, on l'aura bientôt. Tu peux sentir ça un peu lorsqu'il y a de la musique sainte dans les moments saints. Ça peut être dans les prières, des fois, quand on chante. Les Sfaradim chantent moins. Mais, par exemple, le Hallel à Rosh Chodesh, t'as des synagogues, ça prend une heure. Une heure de chanson de Hallel. Mais tu décolles. Sfaradim le font en 5 minutes. À la fin, ils font Hacham Moshiana, encore un peu comme si par-ci par-là. Mais il y a des endroits où tu décolles. Ça, c'est qu'un Hallel, sans musique, sans rien. Tu as des mariages qui sont très sains, des fois, en Kudusha, tout ça, t'as une belle musique. Tu sens la Shrina, tu peux sentir des choses très très profondes. Ça, c'est. Et nous, on est en galoute, en exil, on est dans l'obscurité de l'obscurité, d'accord. Mais quand la lumière viendra, c'est ça le véhicule de relation avec Hachem. Quelqu'un peut pleurer en entendant une belle musique. Mais il pleure pourquoi? Parce que c'est beau. Mais ok, ça t'amène à quoi? Bah rien, c'est beau. C'est un sentiment avorté, il amène à rien, il n'a pas de finalité en soi, si ce n'est que. Il fait vibrer. Alors, quand tu vas utiliser maintenant cette ustensile-là pour vibrer, mais vibrer d'amour pour Hachem, tu imagines l'impact? Le feedback après de ce que tu reçois en retour de prophétie d'Hachem, hein, Dieu t'envoie un flux d'amour. Tu décolles, t'es où? T'es pas dans ce monde-là. C'est donc bientôt vers Hachem. Bon, alors avant ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mal se déchaîne. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il y a toujours aussi une autre force atomique très grande, celle de création. L'homme et la femme peuvent créer ensemble la vie. Est-ce qu'il y a une force plus grande que ça sur Terre? Non. Et quand il est utilisé à bon escient, même pas pour amener des enfants, parce que pas toujours un couple en situation d'amener des enfants, si la femme est enceinte, c'est la vieille, etc. D'accord? C'est prendre la pilule après une autorisation d'une autorité rabbinique compétente. On a le droit dans les cas où une autorité rabbinique compétente donnera le droit. Quand? Ben, quand tu seras concerné, on te dira. Mais ben, attachez. D'accord? Donc, c'est pas forcément que les relations qu'il y a entre l'homme et la femme dans un couple sont pour amener des enfants, pour procréer. Simplement, c'est un moyen d'union entre l'homme et la femme, très grand. D'amour, d'union, d'expression de l'union qu'il y a. Et Dieu, il aime l'unité. Il est un, il veut l'unité. Dans le Saint des Saints de Béné Israël, il y avait les deux chérubins. Chazal dit qu'ils étaient un mâle et un femelle. Et on les montrait. Quand Béné Israël venait au temple, on ouvrait le rideau pour montrer comment ils étaient en relation intime. Mâle, femelle, regardez comment Dieu vous aime. C'était un symbole qui nous montrait comment Dieu est en relation avec nous. Dieu est en relation avec nous. On a parlé maintenant, à l'époque messianique, on sera en union avec Hachem extraordinaire. Chazal disent, à quoi ressemble cette époque? Ils disent comme ça, en partant du mal. Au début, quand la Géoula vient, c'est pas du jour au lendemain, tout va bien. C'est progressif. Donc, ma chair se dévoile, je ne sais pas exactement à quel moment, et Dieu voudra s'unir avec nous. Et il y a des peuples qui seront, ou certaines parties des peuples qui seront des véhicules du mal, qui voudront empêcher cela. Chazali, à quoi cela ressemble? Un tigre qui veut s'unir, s'accoupler avec sa tigresse. Et quelqu'un va mettre la main entre les deux pour l'empêcher. Qu'est-ce que lui fait le tigre? Mais déchire en petits morceaux. Tu veux m'empêcher de m'unir avec ma tigresse? Ça, c'est l'époque messianique. Quand Hachem voudra s'unir avec Am Israël, et il y en a qui voudront déranger cela. Ils vont se faire déchirer. Donc, on voit que Chazal parle maintenant d'accouplement. Donc, c'est une relève. Alors, entre guillemets, on s'accouple avec Hachem. Alors, c'est par la prière, la prophétie, la musique, d'accord? Une union avec Hachem, la connaissance de lui. J'ai souvent parlé de cela, que Chazal illustre la relation qu'on a avec Hachem comme celle qu'on a avec une femme. Shir HaShirim, qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme, c'est une allégorie, une illustration de l'amour qu'il y a entre Am Israël et Dieu. Et très souvent, le Rambam et Chazal utilisent le vocabulaire qu'il y a entre l'homme et la femme pour illustrer le vocabulaire qu'il y a entre Hachem et nous. Et c'est vrai que c'est comme ça. Avec une femme, tu as trois types de relations. Tu as la relation physique, c'est le corps qui s'exprime. Tu as le sentiment, tu es amoureux. Et tu as la connaissance. La connaissance, tu veux la connaître, parler avec elle, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle en pense, les deux. On va communiquer ensemble. Avec Hachem, c'est clairement la même chose. Le physique, c'est la mitzvot. C'est le corps qui fait des mitzvot. On met les tefillin, les talit, etc. Le sentiment, ça va être l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, et il va s'exprimer dans la prière. Tu lis Tehilim. Les Tehilim, c'est une beauté extraordinaire. Tu prends la traduction, tu regardes. En français, c'est un peu... On perd beaucoup, hein, traduction, trahison. Mais si tu essaies de voir maintenant, et dans le sens hébraïque, c'est tellement beau, l'amour que le roi David parle avec tellement d'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté sentimental. Côté de la connaissance de Dieu, c'est quoi? La Torah. Dieu, comment il va m'exprimer, qu'est-ce qu'il pense? Dans sa Torah, voici ce que je suis, voici ce que je veux, voici ce que je pense. Quand je vais étudier cela, c'est pour ça qu'on étudie, on kiffe tellement, parce qu'on va apprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est. Comme je communique maintenant avec ma femme. Donc il y a vraiment une corrélation dans ces relations-là. Le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette énergie atomique tellement grande de l'union et la fait partir dans des unions factices. On va en boîte, on a une copine, mais ce n'est pas dans le cadre de la sainteté du mariage. Parce que dans le mariage, quand on met la bague à la femme, une partie de l'âme de l'homme part et entoure l'âme de la femme pour l'éternité. Il n'y a pas ça. Donc toutes ces relations, tous ces regards, tout ce qui est, c'est que physique. Ou même avec les sentiments quand on a une copine depuis longtemps, etc., ça reste néanmoins hors de la sainteté. Ça reste dans la touma. C'est impur et c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que tu utilises de nouveau une énergie atomique à mauvais escient. Alors si tu vas en trottinette et tu tombes par terre, ok, tu as fait un petit bobo au genou, c'est pas grave. Maintenant tu roules, tu voles en navette spatiale. Tu dévis. Pas joli, joli. Ben c'est ça, hein. C'est ça l'énergie sexuelle, d'accord? Cette attirance que Dieu a créée pour la kdoucha, pour la sainteté, dans le cadre de la sainteté. Si on le prend, on l'utilise maintenant dans le mal, ça fait des dégâts énormes. Le mal, sachant cela, aujourd'hui, c'est ce qu'il propose à tout le monde. D'un côté, c'est terrible, d'un côté, c'est bien. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un minimum de sainteté et de bon sens comprennent qu'on arrive à des... qu'on n'est pas des animaux. Et que ça arrive à des situations de débauche complètement burk, pour dire le mot tout à fait approprié, d'accord, ils font tchouva. Ils se disent, moi je ne veux pas ça. Moi j'ai une relation avec une femme que j'aime, une relation de construction. Ce n'est pas simplement le corps et c'est tout. On veut beaucoup plus. Le corps fera partie d'un tout. D'un tout, on a plusieurs parties d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, chacune d'entre elles qui est séparée en cinq. D'accord, on a des milliers de parties d'âme. Et quand on s'unit, tous unis ensemble, alors le corps aussi s'unit. Alors c'est une expression corporelle d'une réalité qui est divine. Ça c'est beau. Mais quand il n'y a que le corps, sans l'âme, alors c'est comme les animaux dans la rue. Les chiens et les chiennes, et les chats et les chattes. D'accord? Alors il faut choisir. Est-ce que tu veux être animal ou tu veux être humain? Le mal veut nous faire pécher, devenir animaux. Et Baruch HaShem, ceux qui sont intelligents, et ben, ils sont d'être... C'est vrai que c'est difficile, il faudra... retenir les envies animales que nous avons, et on est sans cesse agressé de tous les côtés, c'est inimaginable. Celui qui est fort, eh ben, il pourra construire beaucoup. Et comme j'ai dit, si on se retient de faire un péché, surtout à ce niveau-là, ça vaut plus que toutes les mitzvot. Il n'y a pas de mérite plus grand que cela. C'est la grande bataille de la fin des temps. C'est pour ça qu'elle est extrêmement dure et que le mal se déchaîne. Il veut nous faire tomber. Il veut nous faire tomber.
Si Mashiach, on a dit que l'aïd veut venir absolument pour cette génération-là, si jamais on veut louper, ben genre ça va être la catastrophe, genre le prochain et tout, genre le temps que le monde genre on va crever.
J'ignore les calculs de Dieu, mais il est vrai que si Mashiach doit venir, on n'est pas prêt, alors c'est terrible. J'imagine que c'était le cas déjà avant la Shoah. Et c'est pour ça que la Shoah a eu lieu, entre autres. On ne connaît pas les raisons de la Shoah. Il y en a des centaines, voire des milliers. Parmi ceux-là, il est clair que nous sommes à la fin des temps, en phase de fin d'exil. Le peuple d'Israël avant la Shoah n'était pas du tout apte à recevoir Mashiach. Dieu, il a voulu amener maintenant la date, elle arrive, d'accord. Elle arrive, ce n'est pas dans un an, deux ans, trois ans, ça fait 70 ans, 100 ans plus tard, d'accord. On est exactement 70 ans après la fin de la guerre maintenant, dans quelques jours, donc au mois de mai, je me souviens bien, d'accord, ça sera la fin de la Seconde Guerre mondiale, 70 ans après. Moi, je pense qu'il y a un rapport entre 70 et... J'espère qu'il y a un rapport. J'imagine toujours qu'il y a des rapports, et pour finir, il n'y en a pas. Bon, j'espère qu'il y aura un rapport. On a aussi un siècle et quelques mois après le début de la Première Guerre mondiale. Fessheim a annoncé que c'était le début des douleurs d'enfantement du Messie. Donc j'espère qu'il y a ici tout un processus dans lequel la Shoah s'inscrit. Et entre autres, on peut assurément dire que le peuple d'Israël n'était pas prêt. Alors, soit Mashiach, c'est clair, parce qu'à l'époque, c'était la grande débandade religieuse, c'était la fin des récoltes. Certains médias juifs mal intentionnés veulent faire croire aux gens qu'avant la Shoah, tout le monde était religieux dans les shtetels. C'est clairement le contraire. Il y avait peut-être 2000 étudiants de yeshiva dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Alors qu'ici en Israël, bien Ara, il y en a 200 000, 300 000, d'accord. C'était la débandade totale. Les gens quittent la Torah, mais à qui mieux. Et pire, en Russie, il y avait la Russie rouge là-bas. Les juifs communistes se battaient contre les religieux. Il y avait la Yitzhakia, la section juive. C'est des juifs anciens étudiants de yeshiva qui connaissaient parfaitement toute la halakha, etc., qui étaient devenus communistes anti-religieux. Ils recherchaient. C'était un juif qui pratiquait quelque chose. On ne pouvait pas les jouer. Pourquoi tu as dit bougie allumée? Bah pour la lumière. Mais mon cher ami, c'est Hanouka maintenant. Pourquoi tu veux maintenant de la farine? C'est peut-être pour Pessah, du Maror, d'accord? Ils les attrapaient. Le Rav Yitzhak, chaque fois avant de dormir, il les maudissait. C'est des juifs qui avaient quitté la Torah et qui envoyaient des milliers de juifs en Sibérie pour une mort de froid et de faim certaine. Des juifs eux-mêmes. Hein? Absolument. Staline a dit, j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai les Rabinovitch autour de moi qui font le travail mieux que moi. Staline. Donc la situation avant la Shoah était terrible. Et ma chair doit venir. Alors Dieu a fait un changement de direction drastique. Draconien. Alors, chasse-chambre de dire que la Shoah est venue pour ça. Elle est venue pour beaucoup de raisons. Mais entre autres, ça, c'est clair. Tout coup, il y a pris un changement. Retour en terre d'Israël, physique. Et maintenant, le retour anormal, miraculeux des Juifs à la Torah. Nous sommes tous des miraculés. Qu'est-ce que fait un garçon de votre âge ici, à Jérusalem, en train d'étudier des textes qui datent d'il y a 2000 ans? Je peux savoir? Va t'éclater. T'es en Israël? Va à Eilat maintenant. Il fait froid dans le monde entier. Va à Eilat, voilà. C'est beau, tout ça, la plage. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et non, tu viens ici, tu casses la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une soif de Torah, c'est pas normal. C'est complètement anormal. C'est clair, sans aucun doute, ça, un grand rabbin me l'a dit, que c'est le mérite, entre autres le mérite de nos frères qui sont dans la Shoah, qui fait que grâce à eux, aujourd'hui, on peut faire Tshuva pour recevoir Mashiach Bekarov, Bezrat Hashem, sans aucune effusion de sang et sans malheur, parce que Bezrat Hashem, il y a la Tshuva.
Il y a beaucoup de juifs quand même qui sont pas dans la Torah. Enfin,
c'est vrai.
En France, je connais beaucoup d'amis juifs et tout, c'est la catastrophe.
Catastrophe.
Mais Chazal, ils sont forcément pas prêts.
Alors, je veux dire deux choses. Premièrement, je sais pas à quel point eux sont fautifs. Eux sont résultat des arrière-grands-parents. Les grands-parents, ils sont déjà plus là. Et les factures, ils sont déjà payées. Donc lui, il est pas fautif. Première chose. Deuxième chose, Chazal ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Quelqu'un qui est au fin fond de la Touma, comme quelques-uns d'entre vous l'étaient, et qui fait maintenant, qui revient à la lumière qui fait, elle est énorme. Donc elle vaut des milliers de personnes qui sont perdues. Elle vaut ça. Bah, au Chadona, il va m'en va, mais...